Vous écoutez
RMC.
Lundi 22 juin,
l'info sur RMC.
Il est 7h01, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Peu ou pas de distance pour cette fête de la musique inédite, affrontement avec les forces de l'ordre cette nuit sur l'esplanade des Invalides à Paris. Comme un air de septembre en plein mois de juin, tous les écoliers et collégiens sont censés reprendre les cours aujourd'hui grâce à un allègement du protocole sanitaire. 3 mois de fermeture, ça suffit, les cinémas accueillent à nouveau les spectateurs. On vous dira quels films sont à l'affiche. Bienvenue à tous sur RMC. Sans masque, sans distance, comme si l'épidémie n'avait jamais existé. Des foules compactes, déjà observées d'ailleurs lors des manifestations de ces dernières semaines en France hier. C'est la fête de la musique qui était célébrée partout en France. Des milliers de personnes rassemblées malgré le virus. Des affrontements ont éclaté cette nuit sur l'esplanade des Invalides à Paris. Mahou Bécard-Granier.
Des centaines de bouteilles de verre lancées sur les voitures de police. David était venu profiter de la fête et s'est retrouvé au milieu des affrontements.
Dès que les policiers sont arrivés en véhicule 4 effectifs, ils se sont fait prendre à partie par des milliers de personnes. Et à chaque fois que des véhicules passaient, ils étaient pris pour cible. Et beaucoup de policiers qui se sont fait tirer dessus à coups de feu d'artifice.
Pas très loin de David, un autre jeune homme qui, lui, reconnaît avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre.
On est venu passer une petite soirée tranquille, normal comme on fait tous les jours. On a jeté des feux d'artifice pour fêter la fête. Ils sont commencé à nous encercler tout ça. Et nous, on n'aimait pas ça, du coup, on a commencé à les caillasser partout. Bouteilles, tout ce qu'il y avait par la main, on caillassait.
Le calme est revenu vers 4h du matin. Au-delà des violences, aucune consigne sanitaire vraiment respectée. Ni le port du masque, ni la distanciation physique. De quoi inquiéter le médecin Christophe Frappe, infectiologue à l'hôpital américain de Paris.
On a eu 30 000 morts en France. On ne peut pas accepter de voir ce genre de choses. Là, on s'expose d'ici 10-15 jours à avoir un certain nombre de cas sur Paris. Et on verra ça avec les indicateurs et quelques hospitalisations.
La France compte aujourd'hui 81 foyers épidémiques de Covid-19.
2600 personnes dans les rues de Nantes hier, ni oubli ni pardon, un an après la mort de Steve. Cet animateur périscolaire de 24 ans venu danser en bord de Loire, il s'était noyé lors d'une opération policière perçue comme disproportionnée. Atmosphère tendue hier soir dans la ville où la police a tiré des gaz lacrymogènes pour empêcher des manifestants de monter des barricades avec des barrières de chantier. Étape 3 du déconfinement, retour obligatoire à l'école de tous les élèves de maternelle, primaire et collège. Le protocole sanitaire est considérablement allégé. Plus aucune distance chez les petits pour les élèves d'une même classe. 1 mètre latéral en élémentaire et dans le secondaire. Les parents que nous avons rencontrés sont soulagés de voir leur enfant finir l'année presque normalement.
Je pense que ça va nous faire à tous du bien, eux de retrouver une vie sociale et moi de pouvoir retravailler aussi en télétravail sereinement. C'est bien qu'ils puissent avoir un point avec leur maîtresse et leur maître avant la rentrée prochaine, qui pour certains est cruciale.
Je trouve que c'est une bonne chose pour lui parce qu'il a besoin de retrouver des contacts sociaux, de revoir ses copains et de revoir sa maîtresse. J'ai pas d'inquiétude, j'ai fait le choix de le remettre en toute sécurité et ça se passera très bien.
Des règles sanitaires encore très strictes en Guyane, territoire voisin du Brésil où le bilan des victimes de Covid-19 vient de dépasser les 50 000 morts. Hier soir, Matignon a donc remis sur la table l'hypothèse d'un reconfinement. Benjamin Smadja.
278 cas supplémentaires détectés ces dernières 24 heures. Cela fait maintenant 10 jours que les autorités sanitaires observent une brusque accélération de l'épidémie, notamment dans l'agglomération de Cayenne. Dès aujourd'hui, 17 soignants supplémentaires issus de la réserve nationale doivent arriver sur place. D'autres équipes soignantes, en particulier des hôpitaux de Paris, vont également être envoyées cette semaine. Enfin, 20 lits de médecine générale seront déployés pour accueillir des patients non Covid et ainsi dégager des capacités hospitalières supplémentaires. Si ces mesures ne suffisent pas, que le taux de reproduction du virus reste à un niveau élevé, la question du reconfinement de la Guyane devra être examinée, prévient Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe a demandé à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, de se rendre sur place demain.
Et ces dernières 24 heures, la France a enregistré 7 décès supplémentaires à l'hôpital. Nombre de patients en réanimation 715 reste stable. RMC 7h05, ce fut la dernière ligne droite. Après 9 mois de travail, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont adopté le rapport final. 149 propositions, une seule, la réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires, a été rejetée. Les 600 pages du rapport sont désormais entre les mains de l'exécutif. Tout reste à faire, selon la co-présidente de la Convention citoyenne pour le climat, Laurence Toubiana.
C'est le moment, effectivement, de faire ces changements. Maintenant qu'on va avoir tellement de,
restructuration économique, n'est-ce pas? Alors autant les faire dans le bon sens. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Moi, j'espère que le message va être entendu très largement, que beaucoup d'acteurs de la société vont le reprendre, les ONG, les syndicats, les gens, quoi, les citoyens. Je suis optimiste, en tout cas, sur le fait que ça a changé les perspectives. Comme moment politique, ça a créé quelque chose que personne ne veut plus ignorer.
Alors, parmi les propositions de la Convention climat, un référendum pour créer le crime d'écocide. Concrètement, il s'agirait de poursuivre les politiques ou les entreprises si leurs décisions impactent gravement le réchauffement climatique. Benjamin Pelsi, Nicolas Bach.
Le crime d'écocide sanctionnera les entreprises ou les politiques publiques qui nuisent gravement à l'environnement et accroissent le dérèglement climatique. La juriste Valérie Cabanès est à la tête de l'association Notre Affaire à Tous. Elle demande l'instauration de ce crime depuis 2013.
Là, si l'on parle d'entreprises, il est clair aujourd'hui que la plupart des entreprises pétrolières sont au courant des conséquences du changement climatique depuis très longtemps. Là, on est face à des personnes qui ont, en connaissance de cause, continuer à promouvoir des activités industrielles qui sont dangereuses pour la planète et pour l'avenir de l'humanité.
Les entreprises françaises pourront être poursuivies pour des actions sur le territoire national, mais aussi à l'étranger. Karim Adeli, l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, appelle à ce que les peines associées soient importantes.
Je crois que ça doit être des sanctions exemplaires pour que aucune entreprise puissent reproduire ce genre d'acte.
Les membres de la Convention citoyenne proposent que, outre une peine de prison, les juges prononcent une amende calculée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.
La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, sera sur RMC et BFM TV à 8h30. Dans l'actualité de ce lundi, de nouvelles fouilles dans deux maisons ayant appartenu à Michel Fourniret dans les Ardennes. Le tueur en série mis en examen dans la disparition de la petite Estelle Mouzin en mars dernier. Dans le cabinet de la juge en charge du dossier, il aurait reconnu avoir accosté la fillette de 9 ans dans la rue à Guermantes en 2003. On l'a appris il y a quelques minutes, 10 enfants de djihadistes français qui étaient retenus dans des camps de déplacés sous contrôle kurde en Syrie ont été rapatriés en France cette nuit. C'est le Quai d'Orsay qui l'annonce. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. La piste terroriste retenue dans une attaque au couteau qui a fait 3 morts à Reading en Grande-Bretagne samedi soir. Un suspect de 25 ans habitant cette ville à l'ouest de Londres a été interpellé 5 minutes après un appel aux forces de l'ordre. Il était toujours en garde à vue hier, Élodie Salé.
Après avoir attaqué des promeneurs avec un couteau, l'agresseur a été interpellé. Amir, un livreur de 31 ans, a été témoin de son arrestation.
C'était effrayant. Sa main était couverte de sang quand il a été arrêté. Je pouvais voir le sang couler. Il y avait 4 ou 5 policiers sur lui et il n'a pas résisté, ce qui était un peu bizarre. Il n'a pas dit un mot, il n'a même pas bougé. Il était juste là, comme ça.
Le suspect, âgé de 25 ans, est un habitant de Reading. On ne connaît pas encore son identité. Le commissaire adjoint à la tête de la police nationale antiterroriste, Nel Bassou, affirme lui que pour le moment, rien ne permet d'expliquer son acte.
Bien que la motivation de cet acte horrible soit loin d'être certaine, la police antiterroriste a pris la responsabilité de mener l'enquête. Il est clair que cela n'était en aucun cas associé à la manifestation Black Lives Matter qui s'est déroulée plus tôt. Et d'après nos enquêtes menées jusqu'à présent, les officiers n'ont rien trouvé qui puisse suggérer que quelqu'un d'autre était impliqué dans cette attaque.
Le niveau de la menace terroriste en Grande-Bretagne n'a pas changé et reste important, 3 sur une échelle de 5.
Déconfinement des cinémas. Aujourd'hui, c'est toute une économie qui va reprendre. 3 mois qu'il était impossible de voir le moindre film dans les salles obscures, mais ce lundi, c'est donc la reprise. Bonne nouvelle, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, il n'y aura pas de limitation pour accéder aux salles. Seule règle, un siège libre entre les spectateurs qui ne se connaissent pas, c'est pas plus mal. Il faudra porter le masque jusqu'à la salle pour cette reprise. Une 40aine de films à l'affiche. Martin Cadoré.
Quelques films victimes du confinement vont ressortir en salle. De Gaulle avec Lambert Wilson dans le rôle titre ou encore la comédie féministe La Bonne Épouse. Une deuxième vie pour ces films sortis le 11 mars, quelques jours avant la fermeture des salles. Les exploitants misent aussi sur la reprise de films sortis un peu plus tôt dans l'année, comme Ducobu 3, sorti début février, ou le film des studios Pixar En Avant. Quelques nouveaux longs métrages vont sortir, mais ne vous attendez pas à voir les films à gros budget qui auraient dû sortir pendant le confinement. Le prochain James Bond, par exemple, a été décalé à novembre prochain et le deuxième volet de Wonder Woman ne sortira pas ce mois-ci comme prévu mais en août prochain. Et puis 2 sorties attendues ne passeront pas du tout par la case salles obscures, la comédie Forte et l'adaptation italienne de Pinocchio. Les producteurs de ces deux films ont préféré les revendre au service de streaming Amazon Prime.
Et comme il va faire très beau et très chaud cette semaine, on va tous aller au cinéma.
Bien, eh ben, nous allons voir. On va en parler dans un instant avec notre invité Aurélien Bosque, qui est président des cinémas Pathé Gaumont. Mais auparavant, je vais prendre Lionel, qui est en Seine-et-Marne. Bonjour Lionel.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Ça va Lionel, vous êtes chauffeur de taxi, hein Lionel?
Oui.
Auditeur fidèle, téléspectateur, comment faites-vous le matin?
Moi, je suis dans la voiture dans
donc, oui.
À 4h15.
Oui.
Donc, c'est souvent sur la radio.
Mais évidemment. 4h15, c'est l'heure où je me lève, moi, tiens, Lionel. Bon. Vous attaquez le boulot à 4h15, c'est ça?
Ouais, je suis sur l'application G7 à 4h15.
Ouais. Pas évident, là, en ce moment, hein?
Non, mais bon.
Ça s'améliore un peu, là, doucement?
Moi, je suis sur la Seine-et-Marne, c'est petit, hein? C'est
oui.
Petit joueur.
C'est petit, ouais, c'est petit.
Ouais.
Alors, la fête de la musique? Vous avez travaillé hier?
Moi, j'ai eu la chance de récupérer une bonne course en fin de journée pour aller sur Paris.
Oui.
Donc, il ne faut pas se plaindre.
Oui.
Pas...
Voilà. Oui. Et la fête de la musique, vous avez vu les fêtards un peu
Nous, sur Fontainebleau, c'était très très bien organisé. C'était un camion avec un orchestre dessus. C'était très très bien organisé, bien entouré avec les forces de l'ordre. Ça faisait vraiment ambiance bon enfant. Donc,
oui.
Mais alors, quand je suis arrivé sur Paris, là, j'avais l'impression de changer de planète ou de pays.
Oui.
Voilà. C'était les uns sur les autres. Pas de masque, rien du tout. Pas de limite d'âge, hein, aussi bien ado, trentenaire ou dans mon âge, là, 50 ans. Et voilà, tous collés les uns les autres. Donc, pas forcément des gens qui étaient en famille, mais voilà, des gens qui venaient faire la fête comme l'année dernière, à la même époque.
Mmh.
Et moi, j'ai déposé mes clients derrière la gare du Nord.
Oui.
Quand je suis redescendu, je suis vraiment passé par des petites routes pour dégager de là. Mais on va pas dire que ça m'a choqué, mais c'est une torpeur, quoi. Je veux dire, il y a un sacré souci, quoi. Je pense que tous ces gens-là, ils se rendent pas compte de ce qu'on a vécu, les décès et tout ce qu'on peut avoir envisagé pendant ces 2 ou 3 mois. Il y a encore des gens qui sont dans les hôpitaux en service d'urgence.
Oui, en réanimation,
oui. Oui, je pense qu'il y a un manque de respect total de tous ces gens-là qui, on se rend pas compte du tout. Là, je pense que là, c'est ça, on a cette Club Med, tout est fini. Et moi, ça m'a vraiment, c'est une torpeur, quoi. Je me dis, au mois de septembre, notre gouvernement, il va refermer les portes. Ça, si ça continue comme ça, c'est vraiment... Alors, quand on voit tous ces gens qui ont mis les clés sous la porte ou qui sont en passe de mettre la clé sous la porte de leur commerce parce que tout le monde se casse la figure, enfin, une grosse majorité. Nous, les taxis, on en a pris plein la figure, là, parce que du jour au lendemain, plus rien du tout. L'économie et tout ça, tous ces pauvres gens qui sont même encore malades, mais là, on s'en rend pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte de ça. Hein.
Bien, merci Lionel.
Bon, bonne journée à tous.
Merci. Et bonne journée à vous et bon courage. Effectivement, c'est fête sauvage un peu partout, les quais, les jardins, les places. Et pendant ce temps-là, on interdit l'entrée dans les boîtes de nuit. On ferme toujours les boîtes de nuit jusqu'en septembre. Il va falloir qu'on m'explique un peu cette absurdité. Mais bon, il est 7h14. Allez, Aurélien Bosque, bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président des cinémas Pathé Gaumont. Vous ouvrez, enfin. Ça y est?
Absolument, ça y est. On a même ouvert il y a quelques heures, puisqu'à minuit, on avait quelques salles qui accueillaient du public. Donc après 100 jours de fermeture, c'est pour nous vraiment un grand moment.
Oui, j'ai vu les files d'attente, pas de masque dans les files d'attente.
Écoutez, j'étais à Bourgogne.
C'est les images que j'ai vues, hein, dans tous les cas.
Oui, alors c'est vrai qu'on est, les gens vont prendre le.
À Rennes, c'était des images tournées à Rennes.
Oui, les gens vont prendre l'habitude. Je pense que ce qui est certain, c'est qu'on va vouloir qu'ils aient des masques dans les lieux de circulation des cinémas. Après, on a la chance d'avoir la possibilité de se découvrir en salle. Mais voilà, les choses se mettent en place et globalement, cette nuit, les gens jouaient le jeu.
Et quand on se connaît pas, un siège vide.
Absolument. Soit on vient seul et donc autour de soi on a des sièges qui sont vides, soit on vient en groupe et autour du groupe.
On a le vide autour de soi, c'est pas mal.
Absolument. Pour l'instant,
pour l'instant,
c'est le
cas. Ce sont les conditions sanitaires. Et le pop-corn.
Écoutez, le pop-corn sera chaud.
Comment allez-vous faire?
Mais on a adapté notre offre avec des petits couvercles qui renforcent le niveau de protection. Et donc, normalement, la séance de cinéma et le pop-corn devraient retrouver leur place.
Quentin et Anaïs adorent le cinéma, moi aussi d'ailleurs.
Oui, et
j'adore aller
au cinéma.
Mais bien sûr. Bien sûr.
Moi, je préfère le pop-corn précisément.
Vous avez une question, Anaïs et Quentin? Moi, j'en ai une.
J'en ai une, oui, Quentin.
Non, mais moi, c'est quels seront les films à l'affiche, enfin,
bah, oui.
Ça rouvre, mais on va voir quoi au cinéma?
Alors, est-ce qu'on va voir les films qu'on voulait voir au mois de mars et qu'on n'a pas pu voir?
Je pense que déjà, première chose, les films qui ont eu une carrière qui a été interrompue lors de la fermeture sont repris en priorité dans les salles. Donc ça, les films que vous auriez pu avoir envie de voir le 14 mars, eh bien, bonne nouvelle, vous pourrez les voir. On a après un certain nombre de films qui sont des nouveautés, qui arrivent dès cette semaine. Et à partir, on va dire, essentiellement de la semaine prochaine, là, on a les dates et les films qui commencent à se repositionner avec des très gros films qui seront dès le mois de juillet dans les salles.
Et ils seront plus longtemps en salle, du coup, pour permettre, je sais pas, d'avoir plus de chiffres, parce que s'il y a moins de monde, forcément.
Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on va s'adapter, à la fréquentation. Aujourd'hui, une grande question, combien on va avoir de spectateurs en salle dans les prochains jours. Nous, on est assez optimistes, assez confiants. Maintenant, on va voir un peu comment tout ça se.
Alors, vous avez un film coup de cœur, c'est La Bonne Épouse, c'est ça?
Absolument.
C'est un très bon film. Comédie, trio d'actrices, Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky.
Absolument.
C'est cela, hein?
Tout à fait.
Bon.
Un très bon film.
Un très bon film qui avait commencé avant, d'ailleurs.
Qui avait commencé avant et dont on reprend effectivement l'exploitation.
Oui. Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas peur qu'avec le confinement, les gens ont énormément regardé les plateformes, Netflix notamment.
Oui.
Bah, que les gens restent là-dessus, en fait, et ne viennent plus en salle parce qu'ils se disent au final, la maison, c'est confortable.
Et la peur aussi. Ouais, risque.
Alors, je vais vous répondre à ces deux points.
Il n'y a plus beaucoup de risques.
Premier point sur l'habitude des gens à être chez eux devant leur canapé, enfin devant leur télé sur leur canapé. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est une expérience, c'est une sortie, c'est un véritable loisir. Et donc, aujourd'hui, quand on écoute nos clients...
Qui coûte cher, mais qui
permet 3 heures d'évasion complète, de magie, et on considère que ce qu'on vit pour ce tarif qui est souvent adapté d'ailleurs aux différentes typologies de clients, on estime que c'est vraiment différent de ce qu'on a chez soi. Et d'ailleurs, quand on écoute nos clients, la plupart nous disent, moi je viens en cinéma pas forcément pour l'offre de film, mais j'ai très envie de ressortir en couple, en famille, ressortir avec mes enfants. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très fort aujourd'hui, encore plus fort qu'avant. Donc on est relativement confiant sur cet aspect-là.
Je vous dis ça parce que les restaurants, premier jour, ça a été formidable, et puis après, beaucoup moins formidable. Donc, est-ce que le cinéma ne risque pas ça aussi? C'est-à-dire que les cinéphiles acharnés vont au cinéma tout de suite parce qu'ils ont envie d'aller au cinéma, et puis après, ça se tasse un petit peu. C'est le risque, vous le savez.
On a la chance, contrairement aux restaurants, de ne pas avoir les mêmes contraintes météorologiques, même si aujourd'hui, l'arrivée de ce magnifique... magnifique soleil, on va dire que c'est pas la météo idéale pour reprendre le chemin des salles. Non, on pense que dans la durée, les gens reprendront leur premier loisir et aujourd'hui, le cinéma en salle, ça reste le premier loisir des Français.
3 mois de fermeture. Trois mois de fermeture.
100 jours.
Économiquement, très dur.
C'est très dur, oui. Enfin, comme
des salles vont fermer, rouvriront pas.
Vous avez raison, Jean-Jacques. Il y a des salles qui vont être mises en difficulté.
Oui.
Les plus grands réseaux, je pense, assez solides et passeront cette période. Mais c'est un moment difficile et c'est pour ça qu'on est aussi très impatient de rouvrir nos salles, très impatient d'accueillir à nouveau nos clients. Parce que 100 jours sans activité, c'est terrible pour une entreprise, quelle qu'elle soit.
Eh bien, merci Aurélien Bosque.
Merci
président des cinémas Pathé Gaumont. Vous appelez sur ce sujet, sur d'autres. Le 32-16, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Il est 7h19. Qu'allons-nous faire, Anaïs?
Ce sera Marie Dupin qui va venir nous parler de ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui. Parce que les casinos vont rouvrir, mais pas les discothèques. Alors, qu'est-ce qui sera possible? Vous saurez tout avec Marie dans un instant. À tout de suite.
RMC Dupin quotidien.
Avec Marie Dupin, Marie.
Oui.
Dernière phase de déconfinement. Nous sommes dans la dernière phase de déconfinement. On peut presque parler de retour à la vie normale.
Oui, après 2 mois de confinement, d'abord pour les élèves. Après 2 mois de confinement et d'école à la maison et mois d'accueil, on va dire un petit peu en dents de scie. Tous les élèves de la maternelle jusqu'au collège doivent obligatoirement retourner en classe ce matin. Les lycées, eux, ne sont pas concernés à cause d'un risque de brassage plus important selon le gouvernement. La distanciation physique entre les élèves disparaît en maternelle. Pour les élémentaires et les collèges, elle est assouplie, c'est-à-dire qu'elle doit être respectée uniquement quand c'est possible.
Tiens, on va demander à Quentin quelles sont les règles exactes.
Pour le retour à l'école, bon, déjà, la règle des 15 élèves par classe, on l'enlève. Maintenant, c'est plus 4 mètres pas carrés par élève, c'est 1 mètre latéral. La question, en fait, maintenant, c'est de savoir combien d'enfants retourneront à l'école. Et on peut déjà dire que les classes ne seront pas pleines, puisque un parent sur quatre ne renverra pas son enfant à l'école. 25% sont sûrs et 30% hésitent encore, selon un sondage Odoxa.
Alors, vous êtes parent, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez renvoyer votre enfant à l'école? Marie, les cinémas, on vient d'en parler, on va pouvoir retourner au cinéma.
Oui, hein, c'était l'un des derniers lieux publics encore fermés, alors que les restaurants, les bars et les salles de sport avaient repris une activité. Parmi les mesures prévues dans les cinémas, une régulation des flux des spectateurs, c'est-à-dire qu'il y aura forcément un fauteuil libre entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Les casinos et les salles de jeu rouvrent également dans le respect des règles sanitaires, mais pas les boîtes de nuit qui resteront fermées.
C'est une absurdité totale quand on voit ce qui se passe partout. Reprise aussi des sports collectifs.
La pratique des sports collectifs est de nouveau autorisée, mais pas les sports de combat, hein, sauf pour le haut niveau. Pour la réouverture des stades, il faudra attendre le 11 juillet avec 5000 spectateurs maximum. Oui. Enfin, les colonies de vacances peuvent accueillir des enfants à partir d'aujourd'hui en respectant la distanciation physique.
Alors, les entraînements sports collectifs ont repris, mais vraiment avec des règles extrêmement strictes. Merci Marie. Tiens, si nous prenions Alé, qui est dans l'Ain, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Brodin.
Merci d'être avec nous, vous êtes patron de discothèque justement.
Tout à fait. Ouais.
Et je le disais, c'est absurde. Quand on voit les rassemblements sauvages partout, avec tout le monde qui danse collé les uns aux autres, et vous pouvez pas ouvrir vos discothèques.
Tout à fait. Faudrait m'expliquer là, je comprends pas là.
Moi non plus, je suis comme vous, je comprends pas.
Et là, malheureusement, c'est le monde de la nuit qui est interdiction, parce que là, il y a beaucoup de boîtes vont fermer. Quand on voit que le VIP de Jean Rock, qui est une grande boîte, a fermé sa boîte de Paris et que
je vais le mettre à l'antenne dans la semaine là.
Donc moi j'ai une petite boîte de nuit de campagne, une petite boîte familiale. Mmh. Donc au début du confinement ça allait, mais là niveau trésorerie, on a du mal.
Évidemment.
Hein.
Évidemment. Écoutez, on va essayer de se battre pour faire changer d'avis, le gouvernement change d'avis.
On est les grands oubliés du confinement.
Je sais.
Et on sera les derniers à ouvrir. Et c'est dur, c'est très dur. Ouais.
Merci
à vous, Monsieur Brodin.
Et bon courage à Ornex dans l'Ain. Il est 7h26. Charles Magnin à l'actu des réseaux sociaux. Donald Trump, lui, était en meeting, peu importe coronavirus ou pas, lui, c'est pas son souci. Ce week-end à Tulsa, c'est dans l'Oklahoma, un événement qui aurait été volontairement saboté par des internautes adeptes du réseau social TikTok.
Oui, il s'agissait du premier meeting de Donald Trump depuis 3 mois pour cause de coronavirus. Alors, la semaine dernière, il était très fier d'annoncer sur Twitter 1 million de personnes avaient réservé des billets pour ce meeting dans l'Oklahoma. La salle prévue pouvait accueillir 20 000 personnes. Une scène et des écrans géants avaient été installés à l'extérieur pour les centaines de milliers de supporters de Trump qui ne pourraient pas entrer. Finalement, tout cela n'a servi à rien. Selon les médias locaux, seules 6 000 personnes sont finalement venues écouter le président américain. Les gradins de la salle sont restés très largement vides. La scène extérieure a été rapidement démontée car en réalité, l'équipe de Donald Trump aurait été victime d'un mouvement lancé par des jeunes, par des ados, sur leur application favorite, TikTok. Dès que les réservations gratuites en ligne ont été lancées, des jeunes gens ont imaginé l'idée de s'inscrire, de réserver une place, sans aucune intention d'y aller réellement. Certaines vidéos qui expliquent la marche à suivre ont cumulé des millions de vues. La grande communauté des fans de K-pop, la pop coréenne, ont largement participé. Résultat, l'équipe de Donald Trump a reçu des milliers, des centaines de milliers de réservations bidons, ce qui explique en grande partie ce fiasco et tous ces gradins vides quand le président américain a pris la parole samedi soir.
La tenue même de ce meeting faisait polémique depuis plusieurs jours.
Oui, évidemment, en pleine crise sanitaire, le choix de réunir des milliers de personnes dans une salle a été vivement critiqué, surtout dans l'Oklahoma, état où le nombre de cas positifs a fortement augmenté ces derniers jours. D'ailleurs, quelques heures avant le meeting, 6 membres de l'organisation ont été testés positifs. Des masques ont bien été distribués à l'entrée, mais très peu portés à l'intérieur de la salle. Et dans son discours, le président américain s'est évidemment félicité de sa gestion de la crise sanitaire, en expliquant qu'il avait trouvé une solution toute simple pour faire baisser le nombre de cas positifs, arrêter de tester massivement.
Quand vous testez aussi massivement que nous, vous allez trouver plus de cas. Donc, j'ai dit à mes équipes, s'il vous plaît, ralentissez sur les tests.
slow the testing down. Ralentissez les tests, dit Donald Trump. Il fallait y penser. Pas de test, pas de cas positif et donc plus de virus.
Mais voilà.
C'est malin, voilà, c'est rapide.
7h29. Allez, 7h29, nous sommes avec Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Jacques.
Y a-t-il une nouvelle affaire Fillon? Ça fait trois jours que ça dure.
On va essayer d'expliquer tout ça, effectivement. Qui dénonce les pressions de qui, en l'occurrence? Donc, la chef du parquet national financier dénonce les pressions de sa chef, la procureure générale de Paris. Est-ce que c'était interdit, illégal? La réponse est non. Elle dépend l'une de l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser quand même sur la gestion de cette affaire? La réponse est encore non. Il y a des questions à se poser, je vous en parle.
Bien, merci. Tout à l'heure à 8h10. Anaïs.
Après le journal, on sera avec l'homme qui a soufflé l'idée de la convention climat à Emmanuel Macron. C'est Cyril Dion, écrivain, réalisateur. Maintenant que les citoyens ont rendu leur copie, il demande tout simplement aux politiques de faire leur boulot. Et il sera avec nous à 7h40. À tout de suite.
Il est l'admi, 7h30, Rémi Inquella, pour les dernières informations. Rémi, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Réduire la vitesse sur autoroute, interdire les terrasses chauffées, inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Proposition de la Convention citoyenne pour le climat, on vous fait vivre la dernière journée de cette convention dès le début de ce journal. Une fête de la musique et un besoin de se retrouver hier. Beaucoup de Français dans les rues pour danser. La police qui a parfois mis fin au rassemblement. Et puis le sport collectif autorisé à nouveau à partir d'aujourd'hui, l'entraînement reprend pleinement pour les footballeurs professionnels. 150 citoyens tirés au sort, 9 mois de travaux, 149 propositions. La Convention citoyenne pour le climat a rendu hier ses conclusions à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, que vous recevrez Jean-Jacques à 8h35 tout à l'heure. Ce groupe de travail avait été mis en place par Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes. Il a travaillé, ce groupe de travail, sur des mesures concernant le logement, la nourriture, la production, les déplacements, la consommation, avec un objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Romain Cluzel et Camille Schmitt ont suivi la dernière journée de cette Convention citoyenne.
Des citoyens debout et Cyril Dion, l'un des garants de la convention, en larmes. Les 149 propositions votées, c'est un soulagement pour Jocelyn, 17 ans, le benjamin de l'Assemblée.
Fier aussi de tout le travail qu'on a fourni et quand on regarde, c'est incroyable. Et je pensais pas qu'on réussirait autant notre mission.
Rénover les bâtiments, arrêter de construire sur des zones naturelles, Nicolas veut continuer à défendre ces mesures adoptées par la convention. Il attend beaucoup du gouvernement et d'Emmanuel Macron.
La balle est dans son camp et maintenant je vais lui dire, si regarde, c'est à vous là, monsieur le président, on a fait notre travail. La balle est dans votre camp.
Toutes ces mesures seront-elles reprises sans filtre comme promis par le président? Les membres de la convention sont partagés entre prudence et espoir. Marie-Hélène veut y croire.
On a accouché d'un très beau bébé. Maintenant, il faut qu'on l'aide à grandir, par contre. Et là, cette fois-ci, le gouvernement ne peut pas reculer. Je ne dis pas que tout sera accepté à 100%, mais même s'il n'y en a que 50-60% qui est accepté, mais c'est... ça y est, c'est la première pierre.
Et pour continuer leur travail, les membres de la convention ont créé une association afin de suivre et promouvoir leurs propositions.
Voilà, alors l'endroit, c'est maintenant l'exécutif qui a donc la main. Juste après ce journal, retrouvez Cyril Dion, écrivain, réalisateur, l'un des garants de cette convention citoyenne pour le climat. La fête de la musique, hier, contexte forcément particulier cette année avec des concerts officiellement interdits en raison de la crise sanitaire, mais des Français tout de même rassemblés dans les rues. C'était le cas notamment à Paris. Reportage de Laura Taouchanoff et Bettina de Guglielmo.
Dans une ruelle étroite, un ampli attire des centaines de personnes sous une fenêtre. Une envie de se retrouver, d'évacuer, irrépressible pour Swan.
On fait la fête quand même. On a besoin de faire ça, tu vois. Ça fait deux mois et demi qu'on était chez nous. Donc à un moment, on a besoin de kiffer. Et... mais il y a quand même des mecs qui ont sorti du système son de leur fenêtre. Donc en fait, c'est système D à fond. Faut que la vie normale, elle reparte.
Le coronavirus semble bien loin des esprits.
C'est quoi les gestes barrières déjà?
Un sentiment d'invincibilité, reconnaît Louise.
Les personnes qui sont là, ce sont les gens de moins de 40 ans, moins de 50 ans qui sont moins en risque, du coup qui sont moins concernés par le coronavirus. Là, il y a tout le monde qui est dans la rue, qui est en train de danser. Le mètre de distance, à quel moment est-ce qu'on va vraiment l'appliquer? Pour moi, c'est pas possible en ces circonstances-là.
Après plusieurs heures d'insouciance, la police disperse la foule. Il ne reste plus que quelques notes de saxophone, timides. Pour Marine, la fête est gâchée.
Soit c'est interdit depuis le début, soit tu laisses faire la fête, mais la fête de la musique, on connaît tous. Et on sait, il y a toujours du monde, c'est forcément des rassemblements de personnes.
Une fête incompréhensible pour de nombreux soignants qui auraient préféré une annulation pure et simple de l'événement.
Noté hier soir quelques tensions avec la police sur les Invalides à Paris notamment. Le calme est revenu vers 4h du matin. Et puis à Nantes, une marche blanche en hommage à Steve Maya Canisso a rassemblé 2600 personnes selon la police il y a un an pendant la fête de la musique. Le jeune homme de 24 ans était tombé dans la Loire après une intervention de la police. Il avait été retrouvé mort plus d'un mois après, le 29 juillet. La ville de Stain, en Seine-Saint-Denis, au centre de toutes les attentions cet après-midi. Le syndicat de policiers Alliance 93 organise un rassemblement à 16h devant une fresque de la ville où l'on peut voir les visages d'Adama Traoré et de George Floyd et surtout cette inscription « Contre le racisme et les violences policières ». Les policiers demandent que cette phrase soit retirée. Assa Traoré du collectif Justice pour Adama a elle aussi lancé un appel au rassemblement à la même heure devant cette même fresque. Romain Poiseau.
Adama Traoré, George Floyd, les deux sont victimes du racisme et des violences policières. Pour Assa Traoré, la sœur d'Adama, alors hors de question d'effacer la mention qu'il précise au-dessus de la fresque.
À respecter nos morts. Effacer le visage de mon frère, c'est nier son existence et celle de tous les autres morts entre les mains de forces de l'ordre. Effacer le visage de mon frère, le sourire de mon frère, c'est piétiner sa mémoire, offenser ma famille, c'est revendiquer l'impunité policière, c'est effacer les questions sur les morts inacceptables.
Le syndicat Alliance Police le rappelle, il ne s'agit pas d'effacer la fresque, mais seulement la mention contre le racisme et les violences policières. Grégory Goupil, secrétaire national adjoint à Alliance Police Nationale.
On n'est pas là pour recouvrir la fresque, on est là pour expliquer qu'on ne salit pas une profession. On prend ça comme une défiance envers les policiers et l'institution. Et ce qui est encore plus inadmissible, c'est que le maire PCF de la ville de Stain vient inaugurer cette fresque.
Le maire de Stain, Azedine Taïbi, qui lance un appel au calme. Deux rassemblements sont prévus aujourd'hui devant la fresque à la même heure. Celui du syndicat Alliance Police et celui du collectif Justice pour Adama.
RMC 7h36, on l'apprend ce matin. 10 enfants de djihadistes français qui étaient retenus dans des camps de déplacés sous contrôle kurde en Syrie ont été rapatriés en France cette nuit. Ces enfants ont été remis aux autorités judiciaires françaises. Ils font désormais l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les services sociaux. Depuis l'effondrement du groupe État islamique en mars 2019, la France a ramené 28 enfants de Syrie. Nouvelle étape dans le déconfinement, la réouverture des cinémas aujourd'hui et puis la reprise des sports collectifs. Les Français vont pouvoir reprendre l'entraînement en football, en basket, en handball, dans les stades, dans les gymnases, dans le respect des règles sanitaires évidemment. Des joueurs du Paris Saint-Germain sont par exemple attendus pour la reprise des séances collective aujourd'hui. Morgane Maury.
PSG en ordre de bataille ce matin au camp des loges pour les retrouvailles de l'effectif. Pas d'Edinson Cavani ou de Thomas Meunier pour cette reprise. Ceux-là ont dit adieu au club de la capitale en ne prolongeant pas leur contrat avant cette fin de saison à suspense. Une reprise crescendo avec trois premières journées consacrées aux tests psychologiques et médicaux, dont celui du Covid-19. Première étape avant le retour de la préparation physique et des entraînements en petits groupes à partir de jeudi. Affaibli par les départs, l'effectif rouge et bleu est court. Objectif zéro blessure. Le programme proposé ne permet pas la moindre faute. Finale de la Coupe de France puis de la Coupe de la Ligue fin juillet. Quart de finale de la Ligue des Champions à partir du 12 août à Lisbonne. Le PSG ne va pas chômer pour terminer cette saison scindée en deux par le Covid. Paris a du pain sur la planche.
Voilà, notons que les sports de combat restent, eux, en revanche, interdits à ce stade, sauf pour le haut niveau. Les courses.
Oui, les courses, Anaïs.
À Lyon-Paris, à 13h50, favori numéro 9, Prince Hamlet. Outsider numéro 7, Rimini.
Bien, merci Anaïs. Il est 7h37. Cyril Dion est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain réalisateur, l'un des garants de cette fameuse convention citoyenne pour le climat. Je dis fameuse parce que quand même, ça a été un travail considérable. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé. Vous avez travaillé 9 mois.
Hein. Ouais.
C'est cela. Vous avez rendu un rapport de 600 pages. Bon, c'est pas le nombre de pages qui est important. C'est ce qu'il y a dans le rapport. Le contenu, c'est très intéressant parce que, évidemment, l'objectif, c'est de proposer des mesures réduisant d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre avant 10 ans, et ce, dans une logique de justice sociale. Et vous avez, je trouve, moi, j'ai lu, j'ai travaillé sur ce résultat, ce dossier, et vous avez à la fois... effectivement, avancer des mesures qui pour la défense de l'environnement sont formidables. En même temps, il y a des mesures de justice sociale, et en même temps, vous ne pénalisez pas non plus trop l'économie, parce que j'ai vu, il y avait une mesure travailler 28 heures par semaine qui a été repoussée. Ça semblait logique de la repousser dans le contexte actuel. Donc vous avez vraiment fait un formidable travail. Nous allons voir ce que vont faire les politiques maintenant. Hein, Cyril Dion.
Oui, mais Macron va nous recevoir, enfin va recevoir les 150 citoyens le 29 juin.
Oui.
Pour dire ce qu'il va en faire. Il s'est engagé jusqu'à maintenant passer ces mesures sans filtre au référendum, au Parlement et à application réglementaire directe.
Toutes les mesures passeraient au référendum, non?
Non, ah non, non. Il ne va pas tout passer au référendum. D'abord parce que de toute façon, il y a
150 mesures, 149.
Oui, et puis il y a des sujets qui sont, par exemple, budgétaires qui ne peuvent pas y passer. Tous les sujets ne sont pas aptes à aller au référendum.
On peut prendre des décrets, on peut, enfin bon, etc.
Là, les citoyens ont fait des propositions sur notamment des grands sujets juridiques, c'est-à-dire changer la Constitution, l'alinéa 1 et le préambule. Et légiférer sur le crime d'écocide. Donc reconnaître que la nature
voilà, introduire dans le droit pénal français le crime d'écocide. Ce qui n'a évidemment, ce qui a provoqué des quantités déjà de réactions pour réprimer les crimes contre l'environnement, c'est ça?
Oui, et puis inscrire dans la loi les 9 limites planétaires. C'est le Stockholm Resilience Center qui a fait ce calcul en disant que on pouvait mesurer, à partir du moment où on coupe plus de forêts, qu'on peut en laisser se régénérer, ou on déséquilibre les océans, on déséquilibre le climat, on déséquilibre les sols. Et donc, la Convention demande la mise en place d'une haute autorité qui pourrait regarder toutes les lois et regarder si elles nous mettent en danger pour l'avenir.
Voilà.
Est-ce qu'elles vont faire en sorte qu'on va dépasser des limites planétaires de façon irrémédiable et aller vers des crises qui pourraient être encore pires que celles qu'on vit avec le coronavirus?
Bien, nous allons entrer dans les propositions aussi. Je reçois tout à l'heure Elisabeth Borne, ministre de la Santé. C'est elle qui est en charge ce dossier. Nous allons voir
écologique.
J'ai dit ministre de la Santé, mais ça va pas bien. Oui, cela dit, ça a un rapport avec la transition écologique, la santé. Le ministre de la transition écologique, effectivement, qui a la main maintenant, puisque c'est elle qui a le rapport en main, et c'est elle qui va nous dire ce que le gouvernement retient ou pas. Je ne sais pas si elle va tout nous dire tout à l'heure, mais enfin, bon, moi, je l'interrogerai dans tous les cas. Allez, Cyril Dion, vous restez avec nous. On détaille, pas toutes, mais beaucoup de vos propositions dans 2 minutes. Un peu de pub, à tout de suite.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Allez, il est 8h moins le quart. Cyril Dion est avec nous, écrivain, réalisateur, l'un des garants de la Convention citoyenne pour le climat. Le crime d'écocide, expliquez-nous, Quentin Vinet.
Qu'est-ce que c'est?
Oui, qu'est-ce que c'est? Et possible référendum sur cette mesure?
C'est ça, c'est la destruction totale d'un milieu naturel. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Voilà ce que dit la Convention. Toute action ayant causé un dommage écologique en connaissance des conséquences et qui ne pouvait pas être ignorée. Voilà ce que dit la Convention citoyenne. L'Assemblée et le Sénat, il faut le savoir, ont déjà rejeté des propositions de loi sur l'écocide dans le passé. La dernière proposition, c'était en décembre 2019, donc c'est assez récent. Elle prévoyait une amende de 20 ans de prison, et une peine de 20 ans de prison, une gigantesque amende de 10 millions d'euros, une proposition qui a été rejetée. Et certains trouvent effectivement qu'il y a un vide juridique en France sur la protection de l'environnement.
Eh bien, nous verrons ce que décide le gouvernement et le président de la République. Cyril Dion, regardons d'autres mesures qui, là, n'ont pas besoin de référendum pour être appliquées. Sur l'automobile, je vais détailler, vous m'arrêtez. Vitesse sur autoroute réduite à 110 au lieu de 130, ça fait beaucoup de bruit.
Y a une petite cristallisation. Ce qui est assez rigolo, c'est que ça a créé beaucoup de débats dans la convention elle-même.
Ah bon?
Puisqu'ils avaient des groupes thématiques. Donc ils ont un groupe sur les transports qui a proposé tout un tas de mesures. Et évidemment, celle-là a été sortie du lot. Ils ont commencé à s'écharper dessus. Et il y a un des citoyens, Guillaume, qui est un spécialiste des transports, qui leur a donné des chiffres, en fait, froidement, leur disant, voilà, sur en gros 200 km, vous allez perdre 7 minutes. Et vous allez réduire vos émissions de 20%, vous allez réduire le coût d'essence d'autant, et vous allez diminuer les risques d'accidents, donc de mortalité, etc. Et c'est passé. C'est une des mesures qui est passée le plus juste, mais qui est passée quand même. Donc finalement, quand on a les éléments.
Les transports prêts à taux zéro pour l'achat d'un véhicule propre, augmenter le bonus pour les véhicules peu polluants, tout en renforçant fortement les malus pour ceux qui polluent. Indemnité kilométrique indexée sur les émissions de CO2 de la voiture. Qu'est-ce que j'ai encore? Abandon des avantages fiscaux sur le gasoil dont bénéficient les transporteurs. Ça aussi. C'est pas évident, ça.
Il va falloir
compenser, là.
Oui, mais il va falloir sortir du pétrole, de toute façon. Enfin, je veux dire, il faut s'y faire. Bon. On est dans une situation qui est tellement grave que, il ne faut pas tergiverser.
Bon, fin des vols aériens intérieurs sur les trajets de moins de 4 heures, quand il est possible de les effectuer en train, par exemple. Ça aussi. Prix plancher pour les billets d'avion. J'ai vu ça, c'est intéressant. L'Autriche fait ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Interdiction de construire de nouveaux aéroports. Et interdiction de l'extension des aéroports existants.
Si on se dit qu'il faut diminuer le transport aérien, on ne peut pas en même temps dire ça et en même temps agrandir sans cesse les aéroports. Plus on les agrandit, plus il y a de trafic, c'est mécanique.
Changement obligatoire des chaudières au fioul ou à charbon d'ici 10 ans.
Mais oui.
Ça aussi,
vous savez
c'est...
que le chauffage, c'est au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc isoler son logement et faire en sorte d'avoir un moyen de chauffage qui émet moins. Donc là, il y a tout un dispositif d'aide. Hein.
Ouais. Parce que,
comme vous
le
disiez tout à l'heure,
bien sûr. Il faut compenser, il faut accompagner.
Ils ont tout le temps réfléchi à la justice sociale, à ce que ça soit applicable pour les plus fragiles. Ce sont des Français comme les autres, ils l'ont dit d'ailleurs dans leur rapport final. Donc
tiré au sort, je le rappelle, tiré au sort.
Absolument.
Ça a été très critiqué, c'était trafiqué, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Non, mais vous avez entendu ça.
Oui, bah, je suis garant, donc j'ai même là pour vérifier le tirage au sort, et je peux vous garantir que c'était pas truqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mesures-là, il va falloir qu'ils se les appliquent à eux-mêmes.
Eh bien
ils ont
sûr.
Réfléchi dans ce sens-là.
Ben, par exemple, l'interdiction des terrasses chauffées.
Par exemple,
terrasses de café. Ça va pas faire plaisir à tout le monde.
On chauffe le trottoir. Là aussi, si on se dit qu'on veut faire des économies d'énergie, il faut arrêter de chauffer le trottoir.
Bon, qu'est-ce que j'ai encore? Il y a beaucoup de choses. Pas d'éclairage des magasins la nuit. Pas plus de 19 degrés dans les bâtiments publics ou privés. Ça aussi.
Hein. 19 degrés, tout va bien. Hein. Je chauffe à 19 chez moi.
Bon, puis il y a l'alimentation. Alors là, beaucoup de mesures qui concernent l'alimentation, le vrac, qu'est-ce qu'il y a encore, les pesticides évidemment, encourager la longévité des produits, ça m'intéresse beaucoup. Hein. D'ici 3 ans, tous les produits fabriqués en France devront pouvoir être réparés.
Oui, on a, enfin, là encore, on a un cycle de production qui est trop rapide. Il faut être capable de faire durer les produits. Vous savez bien que votre machine à laver, quand vous l'achetiez il y a 30 ans, elle vous durait quasiment toute la vie. Maintenant, au bout de 5-6 ans, elle tombe en panne. Les imprimantes, c'est pareil. Alors que parfois, il y a simplement un petit truc à réparer. Et parfois, il y a quelqu'un près de chez vous qui est capable de le réparer.
Mais évidemment, les entreprises qui distribuent plusieurs millions, plus de 10 millions d'euros de dividendes annuels verseront 4% du montant de ces dividendes pour la transition écologique. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça oblige les entreprises.
Les économistes ont été très clairs. Les économistes du groupe d'appui qui ont travaillé avec eux, dont ceux qui siègent au Conseil pour le climat, ils leur ont dit, aujourd'hui, il y a de l'argent. Vraiment. Ce qui est important, c'est d'arriver à le flécher à l'endroit où on en a besoin. Et là où on en a besoin, c'est investir dans la transition écologique. Donc, ces entreprises qui font des dividendes très importantes, il faut qu'elles participent à ça. Et que ça soit pas, comme on l'a vu justement, et ce qui a provoqué la colère des Gilets jaunes, que tout l'effort ne soit pas imputé simplement aux citoyens et particulièrement aux plus fragiles.
Bien, Cyril Dion, vous étiez très ému à la fin. Très ému lorsque vous avez remis... Tout le résultat de ces travaux. Ça a été formidable, c'était un moment formidable. Vraiment, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats et beaucoup de solidarité en même temps.
Mais j'étais très ému parce que je pensais que ça n'arriverait jamais.
Oui.
Parce que je leur racontais. Au mois de février 2019, on était dans le bureau d'Emmanuel Macron avec Marion Cotillard. On a fait cette proposition-là qui avait été portée par les Gilets citoyens. Et quand on est sorti, on était dans la cour de l'Élysée, on se regardait, on se disait, il le fera jamais. Ou alors, s'ils le font, ils vont essayer de le faire n'importe comment. Et force est de constater que jusqu'ici, on verra ce qui se passe après.
Oui.
Jusqu'ici,
l'État joue le jeu jusqu'ici.
L'Assemblée a pu travailler de façon totalement autonome. C'est-à-dire que les citoyens qui étaient tirés au sort n'ont eu aucune influence du gouvernement. Personne n'est venu leur dire ce qu'il fallait qu'ils mettent dans leur rapport. Et donc, on a la preuve, par l'exemple, que quand on tire des gens au sort, quand on les informe, ils font un travail qui va encore plus loin que ce que tous les gouvernements français ont fait ces 30 dernières années. C'est quand même intéressant. Pour un système qui est supposé être pas représentatif, on a entendu des élus qui disaient « Mais pourquoi demander aux citoyens? On connaît déjà les solutions. » Là, le but est de faire en sorte qu'il y ait une appropriation par la société française. Donc maintenant, je pense que ça va être de plus en plus difficile de dire que les Français ne sont pas prêts. En réalité, la plupart d'entre eux sont prêts. Ils ont simplement besoin d'avoir le temps d'étudier le dossier et de délibérer et de trouver les bonnes solutions. Et là, c'est ce que ces 150 Français ont fait.
Bien, et les politiques vont devoir répondre et prendre leurs responsabilités.
Exactement.
Merci beaucoup Cyril Dion.
Merci
d'être venu nous voir. Elisabeth Borne va répondre tout à l'heure, vous répondre, puisqu'elle sera mon invitée, 8h35, 9h. Il est 7h53, je me tourne vers Nicolas Poincaré, c'est l'heure des explications.
RMC, expliquez-nous.
Bien, on parle beaucoup depuis jeudi de Fillon, de François Fillon. Y a-t-il une deuxième affaire Fillon? L'opposition demande que toute la vérité soit faite sur les pressions qu'une haute magistrate dit avoir subi en 2017 dans le dossier Fillon. De quoi s'agit-il exactement? Reprenons l'affaire.
Alors, il s'agit d'une petite phrase qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la justice parce qu'on parle d'une affaire ultra sensible. François Fillon, qui était candidat à la présidentielle, qui a même été un moment favori pour devenir le prochain président et qui va chuter, on s'en souvient, après sa mise en examen dans l'affaire des supposés emplois fictifs de sa femme Pénélope. Tout le monde s'en souvient. Alors voici donc maintenant la nouvelle affaire, 3 ans après. Elle a commencé il y a 10 jours. Éliane Houlette, la chef du parquet national financier, était entendue par la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Et devant les députés, cette procureure, qui est aujourd'hui à la retraite depuis un an, a dit ceci: dans l'affaire Fillon, j'ai subi des pressions de ma hiérarchie. Le contrôle du parquet général était très étroit. On me demandait de rendre compte immédiatement des auditions et des avancées de l'enquête. Et elle a précisé qu'elle ne parlait pas de pression politique, mais bien de pression de sa chef, la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault.
Est-ce que ces pressions sont illégales? Est-ce qu'elles sont anormales?
Alors, elles ne sont pas illégales. Le parquet national financier, qui a été créé après l'affaire Cahuzac en 2013, est là pour poursuivre les délits financiers et les délits politiques. Il dépend hiérarchiquement du parquet général de Paris, qui a donc le droit de lui donner des instructions. Et c'est bien ce qui s'est passé. Éliane Houlette dirigeait une enquête préliminaire qu'elle avait elle-même confiée à la police. Après un mois, sa hiérarchie lui a demandé par écrit de passer à l'information judiciaire, c'est-à-dire d'abandonner son enquête à elle et de la confier à un juge d'instruction. C'est ça qui ne lui a pas plu, c'est ça qu'elle dénonce aujourd'hui. Elle parle de pression, mais c'était des pressions justement pour que l'enquête soit confiée à un juge indépendant, pour que l'on ne puisse donc plus accuser la justice de pouvoir subir des pressions. En réalité, je crois que c'était une bonne justice en pleine campagne électorale, dans une affaire aussi sensible, que de demander à une procureure, par définition pas indépendante, de confier le dossier à un juge, par définition indépendant.
Oui, il n'y a pas de scandale alors.
Alors si, il y a peut-être tout de même une histoire, en tout cas si on en croit le journal du dimanche. Parce que le parquet général de Paris, qui n'est donc pas indépendant, a fait savoir dès le 15 février 2017 qu'il voulait saisir un juge d'instruction. Mais la demande n'a été transmise que le 24 février, c'est-à-dire 9 jours plus tard. Et ce jour-là, comme c'est la règle, le président du tribunal de Paris a confié l'affaire au juge qui est sur le tableau de service, le juge qui est de permanence. Et qui vient de prendre la permanence le 24 février au matin ? Bingo, c'est le juge Serge Tournaire. C'est une star du couloir de l'instruction. C'est le juge qui a instruit toutes les affaires financières qui concernent la droite, notamment toutes les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy. Et donc, en lui confiant le dossier, eh bien, on était sûr qu'il ne serait pas enterré et que les choses allaient aller très vite.
Et tout est allé très vite, en fait.
Et oui, et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir enquêter et se pencher. C'est peut-être ça qu'il va falloir éclaircir. Quand le canard enchaîné sort l'affaire des emplois supposés fictifs de Pénélope Fillon, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire le jour même, le mercredi, c'est du jamais vu. Lorsque l'affaire est confiée au juge Tournaire, un mois plus tard, on vient de le voir, il convoque François Fillon 3 jours après. C'est ultra rapide. Les défenseurs de l'ancien Premier ministre soulignent qu'en 3 jours, le juge n'a pas eu matériellement le temps de lire tout le dossier. Et puis François Fillon finalement est mis en examen un peu plus de 2 semaines après. C'est encore une justice TGV, c'est même une justice Lucky Luke, c'est-à-dire qu'elle dégaine plus vite que son ombre. Le Conseil supérieur de la magistrature saisi par Emmanuel Macron va donc se pencher sur tout ça. Il va revoir les faits, les dates, et on va voir si la justice a fonctionné normalement dans cette affaire qui était tout à fait hors norme, cette incroyable séquence avant le premier tour de la présidentielle.
Mais oui, la droite affirme déjà que la justice a politiquement assassiné François Fillon et volé la présidentielle.
C'est la question. Sans cette célérité de la justice qu'on vient de décrire, est-ce que François Fillon serait aujourd'hui président de la République? Eh bien, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il a d'abord été victime, non pas de la justice et des pressions, mais des révélations du canard enchaîné sur les 600 000 euros indûment perçus par sa femme, si on en croit l'accusation lors de son procès. On remarque d'ailleurs que le jugement sur ce procès est attendu dans une semaine, lundi prochain. Ensuite, il a été victime donc d'un juge indépendant qui l'a mis en examen. Et puis, il faut s'en souvenir, le coup de grâce est tout de même venu non pas de la justice sous pression, mais d'un avocat, Maître Bourgi, qui notamment sur ce plateau avait dit que...
ici même, oui.
Voilà, un avocat proche de Nicolas Sarkozy qui avait révélé l'affaire des costumes. Ça, c'était le coup de grâce. Donc, dans cette affaire, moi, je crois que François Fillon a surtout été victime de François Fillon.
Bien, merci. 7h58, merci. Tout à l'heure, Elisabeth Borne, pour toute autre chose, donc, pour cette convention citoyenne sur le climat. Qu'allons-nous faire après 8h?
On va parler du coronavirus, le taux de reproduction du virus à la hausse dans plusieurs départements, mais aussi dans d'autres pays, comme en Suisse, on va y revenir. Et on parlera évidemment de ce qui s'est passé hier pour la fête de la musique. Certains Français ont totalement oublié les gestes barrières. On sera avec Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, à 8h10.
RMC.